2-7 L'archevêque. Dans cette journée obscure et tragique, une idée vint à un homme du peuple. C'était un ouvrier appartenant à l'honnête et imperceptible minorité des démocrates catholiques. La double exaltation de son esprit, révolutionnaire d'un côté, mystique de l'autre, le rendait un peu suspect dans le peuple, même à ses camarades et à ses amis. Assez dévot pour être appelé jésuite par les socialistes, assez républicain pour être appelé rouge par les réacteurs, il était dans les ateliers du faubourg une exception. Or, ce qu'il faut dans les conjonctures suprêmes, pour saisir et gouverner les masses, ce sont les exceptions par le génie, non les exceptions par l'opinion. Il n'y a pas d'originalité révolutionnaire. Pour être quelque chose dans les temps de régénération et dans les jours de lutte sociale, il faut baigner en plein dans les puissants milieux homogènes qu'on appelle les partis. Les grands courants d'hommes suivent les grands courants d'idées. Et le vrai chef révolutionnaire est celui qui sait le mieux pousser ceux-ci dans le sens de celle-là. Or, l'Évangile est d'accord avec la révolution, mais le catholicisme non. Cela tient à ce que la papauté n'est pas d'accord avec l'Évangile. On comprend à merveille le républicain chrétien, on ne comprend pas le démocrate catholique. C'est un composé de deux contraires. C'est un esprit dans lequel la négation barre le passage à l'affirmation. C'est un neutre. Or, en temps de révolution, qui dit neutre dit impuissant. Pourtant, dès les premières heures de la résistance au coup d'État, l'ouvrier catholique démocrate, dont nous racontons ici le noble effort, se jeta si résolument dans la cause du juste et du vrai qu'en peu d'instants, il changea la défiance en confiance et fut acclamé par le peuple. Il fut si vaillant à la construction de la barricade de la rue Homère que d'une voix unanime, on l'en nomma chef. Au moment de l'attaque, il la défendit comme il l'avait bâtie, ardemment. Ce fut là un triste et glorieux champ de combat. La plupart de ses compagnons y furent tués, et lui n'échappa que par miracle. Cependant, il parvint à rentrer chez lui, et il se dit avec angoisse, « Tout est perdu ». Il lui semblait évident que les profondes masses du peuple ne se soulèveraient pas. Vaincre le coup d'État par une révolution, cela paraissait désormais impossible. On ne pouvait plus le combattre que par la légalité. Ce qui avait été la chance du commencement redevenait l'espérance de la fin, car il croyait la fin fatale et proche. Selon lui, il fallait, à défaut du peuple, essayer maintenant de mettre en mouvement la bourgeoisie. Qu'une légion sortît en armes et l'Élysée serait perdue. Pour cela, il fallait frapper un coup décisif, trouver le cœur des classes moyennes, passionner le bourgeois par un grand spectacle qui ne fut pas un spectacle effrayant. C'est alors que cette pensée vint à cet ouvrier. Écrire à l'archevêque de Paris. L'ouvrier prit une plume et de sa pauvre mansarde écrivit à monsieur l'archevêque de Paris une lettre enthousiaste et grave, où lui, homme du peuple et croyant, il disait ceci à son évêque. Nous traduisons le sens de sa lettre. L'heure est solennelle. La guerre civile met aux prises l'armée et le peuple. Le sang coule. Quand le sang coule, l'évêque sort. Monsieur Cibourg doit continuer Monsieur Affre. L'exemple est grand. L'occasion est plus grande encore. Que l'archevêque de Paris suivit de tout son clergé, la croix pontificale devant lui, la mitre en tête, sorte processionnellement dans les rues, qu'il appelle à lui l'Assemblée nationale et la haute cour, les législateurs en écharpe et les juges en robe rouge, qu'il appelle à lui les citoyens, qu'il appelle à lui les soldats, et qu'il aille droit à l'Élysée. Que là il lève la main au nom de la justice contre celui qui viole les lois, et au nom de Jésus contre celui qui verse le sang. Rien qu'avec cette main levée, il brisera le coup d'État. Et il mettra sa statue à côté de la statue de M. Affre. Il sera dit que deux fois, deux archevêques de Paris ont écrasé du pied la guerre civile. l'Église est sainte, mais la patrie est sacrée. Il faut que dans l'occasion, l'Église vienne au secours de la patrie. » La lettre finie, il la signa de sa signature d'ouvrier. Mais maintenant, une difficulté se présentait. Comment la faire parvenir ? La porter lui-même ? Mais le laisserait-on parvenir, lui, pauvre artisan en blouse, jusqu'à l'archevêque ? Et puis, pour arriver jusqu'au palais archiépiscopal, il fallait traverser précisément les quartiers soulevés et où la résistance durait peut-être encore. Il fallait franchir des rues encombrées de troupes. Il serait arrêté et fouillé. Ses mains sentaient la poudre, on le fusillerait, et la lettre ne parviendrait pas. Comment faire ? Au moment de désespérer, le nom d'Arnaud de l'Ariège se présenta à son souvenir. Arnaud de l'Ariège était le représentant selon son cœur. C'était une noble figure qu'Arnaud de l'Ariège. Il était démocrate catholique, comme l'ouvrier. À l'Assemblée, il levait haut, mais il portait à peu près seul cette bannière peu suivie qui aspirait à rallier la démocratie à l'Église. Arnaud de l'Ariège, jeune, beau, éloquent, enthousiaste, doux et ferme, combinait les tendances du tribun avec la foi du chevalier. Sa franche nature, sans vouloir se détacher de Rome, adorait la liberté. Il avait deux principes, mais il n'avait pas deux visages. En somme, le démocrate en lui l'emportait. Il me disait un jour, « Je donne la main à Victor Hugo, et je ne la donne pas à Montalembert. » L'ouvrier le connaissait. Il lui avait souvent écrit et l'avait vu quelquefois. Arnaud de l'Ariège demeurait dans un quartier resté à peu près libre. L'ouvrier s'y rendit sur le champ. Comme nous tous, on l'a vu, Arnaud de l'Ariège était mêlé à la lutte. Comme la plupart des représentants de la gauche, il n'avait pas reparu chez lui depuis la matinée du 2. Cependant, le deuxième jour, il songea à sa jeune femme qu'il avait laissée sans savoir s'il la reverrait, à l'enfant de 6 mois qu'elle allaitait et qu'il n'avait pas embrassé depuis tant d'heures, à ce doux foyer qu'à de certains instants on a absolument besoin d'entrevoir. Il n'y put résister. L'arrestation, Mazas, la cellule, le ponton, le peloton qui fusille, tout disparut. L'idée du danger s'effaça, il revint chez lui. C'est précisément dans ce moment-là que l'ouvrier y arriva. Arnaud de l'Ariège le reçut, lut sa lettre et l'approuva. Arnaud de l'Ariège connaissait personnellement M. l'archevêque de Paris. M. Cibourg, prêtre républicain, nommé archevêque de Paris par le général Cavaignac, était le vrai chef d'église que rêvait le catholicisme libéral d'Arnaud de l'Ariège. Pour l'archevêque, Arnaud de l'Ariège représentait à l'Assemblée le catholicisme que M. de Montalembert dénaturait. Le représentant démocrate et l'archevêque républicain avaient dans l'occasion d'assez fréquentes conférences, auxquelles servait d'intermédiaire l'abbé Marais, prêtre intelligent, ami du peuple et du progrès, vicaire général de Paris, qui a été depuis évêque in partibus de Surat. Quelques jours auparavant, Arnaud avait vu l'archevêque et reçu ses doléances au sujet des empiétements du parti clérical sur l'autorité épiscopale. Il se proposait même d'interpeller prochainement le ministère à ce sujet et de porter la question à la tribune. Arnaud joignit à la lettre de l'ouvrier une lettre d'envoi signée de lui et scella les deux lettres dans le même pli. Mais ici la même question se présentait. Comment faire parvenir la missive ? Arnaud, pour des raisons plus graves encore que les motifs de l'ouvrier, ne pouvait la porter lui-même, et le temps pressait. Sa femme vit son embarras et lui dit avec simplicité « Je m'en charge ». Madame Arnaud de l'Ariège, belle et toute jeune, mariée depuis 2 ans à peine, était la fille de l'ancien constituant républicain Guichard. Digne fille d'un tel père, et digne femme d'un tel mari. On se battait dans Paris. Il fallait affronter les dangers des rues, passer à travers les balles, risquer sa vie. Arnaud de l'Ariège hésita. « Que veux-tu faire ? » lui demanda-t-il. « Je porterai cette lettre. »« Toi-même ? » moi-même. Mais il y a du danger. » Elle leva les yeux et lui dit, « T'ai-je fait cette objection avant-hier quand tu m'as quitté ?» Il l'embrassa avec une larme et lui dit, « Va. » Mais la police du coup d'État était soupçonneuse. Beaucoup de femmes étaient fouillées en traversant les rues. On pouvait trouver cette lettre sur Madame Arnault. Où cacher cette lettre ? « J'emporterai mon enfant, » dit Madame Arnault. Elle défit les langes de la petite fille, y cacha la lettre et referma le maillot. Quand cela fut fini, le père baisa son enfant au front et la mère s'écria en riant, « Oh, la petite rouge, elle n'a que 6 mois et la voilà déjà qui conspire !» Madame Arnault gagna l'archevêché, non sans peine. La voiture qui l'y conduisit dut faire force détour. Elle arriva pourtant. Elle demanda à l'archevêque, « Une femme qui porte un enfant, cela ne peut être bien terrible. » On la laissa entrer. Mais elle se perdit dans les cours et les escaliers. Elle cherchait son chemin assez déconcerté quand elle rencontra l'abbé Marais. Elle le connaissait. Elle l'aborda. Elle lui dit l'objet de sa démarche. L'abbé Marais lut la lettre de l'ouvrier et fut pris d'enthousiasme. « Cela peut tout sauver, » dit-il. Il ajouta, « Suivez-moi, madame, je vais vous introduire. » Monsieur l'archevêque de Paris était dans la chambre qui est contiguë à son cabinet. L'abbé Marais fit entrer Madame Arnault dans le cabinet, prévint l'archevêque. Et un moment après, l'archevêque entra. Outre l'abbé Marais, il avait avec lui l'abbé de Guéry, curé de la Madeleine. Madame Arnault remit à Monsieur Cibourg les 2 lettres de son mari et de l'ouvrier. L'archevêque les lut et resta pensif. « Quelle réponse dois-je porter à mon mari ?» demanda Madame Arnault. « Madame, dit l'archevêque, il est trop tard. Il fallait faire cela avant la lutte commencée. Maintenant, ce serait s'exposer à faire couler peut-être encore plus de sang qu'il n'en a été versé. » L'abbé de Guéry garda le silence. L'abbé Marais essaya respectueusement de tourner l'esprit de son évêque vers le grand effort conseillé par l'ouvrier. Il fit quelques paroles éloquentes. Il insista sur ceci que l'apparition de l'archevêque pouvait déterminer une manifestation de la garde nationale, et qu'une manifestation de la garde nationale ferait reculer l'Élysée. « Non, dit l'archevêque, vous espérez l'impossible. L'Élysée à présent ne reculera plus. On croit que j'arrêterai le sang. Point. Je le ferai répandre et à flot. La garde nationale n'a plus de prestige. Si les légions paraissent, l'Élysée fera écraser les légions par les régiments. Et puis, qu'est-ce qu'un archevêque devant l'homme du coup d'État ? Où est le serment ? Où est la foi jurée ? Où est le respect du droit ? On ne rebrousse pas chemin quand on a fait 3 pas dans un tel crime. Non, non, n'espérez pas. Cet homme fera tout. Il a frappé la loi dans la main des représentants. Il frapperait Dieu dans la mienne. » Et il congédia Madame Arnault avec le regard d'un homme accablé. Faisons le devoir de l'historien. 6 semaines après, dans l'église Notre-Dame, quelqu'un chantait le Te Deum en l'honneur de la trahison de décembre, mettant ainsi Dieu de moitié dans un crime. C'était l'archevêque Cibourg. 2.8. Au Mont Valérien. Sur les 230 représentants prisonniers à la caserne du Quai d'Orsay, 53 avaient été envoyés au Mont Valérien. On en chargea 4 voitures cellulaires. Il en restait quelques-uns qu'on entassa dans un omnibus. Messieurs Benoît d'Azy, Fallou, Piscatori, Vatiménil furent verrouillés dans les cellules roulantes, tout comme Eugène Sue et Esquiros. L'honorable M. Gustave de Beaumont, grand partisan de l'encellulement, monta en voiture cellulaire. Il n'est pas mal, nous l'avons dit, que le législateur tâte de la loi. Le commandant du Mont-Valérien se présenta sous la voûte du fort pour recevoir les représentants prisonniers. Il eut d'abord quelques prétentions de les écrouer. Le général Oudinot, sous lequel il avait servi, l'apostropha durement. « Vous me connaissez ?»« Oui, mon général. Eh bien, que cela vous suffise. N'en demandez pas davantage. »« Si, dit Tamisier, demandez-en davantage et saluez. Nous sommes plus que l'armée, nous sommes la France. » Le commandant comprit. À partir de ce moment, il fut chapeau bas devant les généraux et tête basse devant les représentants. On les conduisit à la caserne du fort et on les enferma pêle-mêle dans un dortoir auquel on ajouta de nouveaux lits et que les soldats évacuèrent. Ils passèrent là la première nuit. Les lits se touchaient, les draps étaient sales. Le lendemain matin, d'après quelques paroles entendues au dehors, le bruit se répandit parmi eux qu'un tri allait être fait dans les 53 et que les républicains seraient mis à part. Peu après, le bruit se confirma. Madame de Luynes parvint jusqu'à son mari et apporta quelques informations. On assurait, entre autres indications, que le garde des Sceaux du coup d'État, l'homme qui signait Eugène Rouher, ministre de la Justice, avait dit « qu'on mette en liberté les hommes de la droite et au cachot les hommes de la gauche. Si la populace bouge, ils répondront de tout. Pour caution de la soumission des faubourgs, nous aurons la tête des rouges. » Nous ne croyons pas que M. Rouher ait dit ce mot où il y a de l'audace. En ce moment-là, M. Rouher n'en avait pas. Nommé ministre le 2 décembre, il temporisait. Il montrait une vague pruderie, il n'osait aller s'installer place Vendôme. Tout ce qui se faisait était-il bien correct? Dans de certaines âmes, le doute du succès se change en scrupule de conscience. Violer toutes les lois, se parjurer, égorger le droit, assassiner la patrie, est-ce bien honnête? Tant que le fait n'est pas accompli, on recule. Quand la chose a réussi, on s'y précipite. Où il y a victoire, il n'y a plus forfaiture. Rien n'est tel que le succès pour débarbouiller et rendre acceptable cet inconnu qu'on appelle le crime. Dans les premiers moments, M. Rouher se réserva. Plus tard, il a été un des plus violents conseillers de Louis Bonaparte. C'est tout simple. Sa peur avant explique son zèle après. La vérité, c'est que les paroles menaçantes avaient été dites, non par Rouher, mais par Persigny. M. de Luynes fit part à ses collègues de ce qui se préparait, et les prévint qu'on allait venir leur demander leur nom afin de séparer les brebis blanches des boucs écarlates. Un murmure qui parut unanime s'éleva. Des manifestations généreuses honorèrent les représentants de la droite. « Non, non, ne nommons personne, ne nous laissons pas trier !» s'écria M. Gustave de Beaumont. M. de Vatiminil ajouta « Nous sommes entrés ici tous ensemble, nous devons en sortir tous ensemble !» Toutefois, on vint avertir quelques instants après Anthony Touret qu'une liste des noms se faisait secrètement et que les représentants royalistes étaient invités à la signer. On attribuait, à tort sans doute, cette résolution peu noble à l'honorable M. de Falloux. Anthony Touret prit vivement la parole au milieu des groupes qui bourdonnaient dans le dortoir. « Messieurs, s'écria-t-il, une liste des noms se fait. Ce serait une indignité. Hier, à la mairie du 10e arrondissement, vous nous disiez « Il n'y a plus ni gauche ni droite, nous sommes l'Assemblée. Vous croyez à la victoire du peuple et vous vous abritiez derrière nous, républicains. Aujourd'hui, vous croyez à la victoire du coup d'État et vous redeviendriez royalistes pour nous livrer, nous, démocrates. Fort bien, faites. » Une clameur générale s'éleva. « Non, non, plus de droite ni de gauche. Tous sont l'Assemblée. Le même sort pour tous. » La liste commencée fut saisie et brûlée. « Par décision de la Chambre, » dit M. de Vatiminil en souriant. Un représentant légitimiste ajouta « De la Chambre, non, dites de la Chambrée. » Quelques instants après, le commandant du fort se présenta et, en termes polis, mais qui sentaient l'injonction, invita les représentants du peuple à déclarer chacun leur nom, afin qu'on pût assigner à tous des destinations définitives. Un cri d'indignation lui répondit. « Personne, personne ne se nommera !» dit le général Oudinot. Gustave de Beaumont ajouta. « Nous avons tous le même nom, représentants du peuple !» Le commandant salua et sortit. Au bout de 2 heures, il revint. Il était assisté cette fois du chef des huissiers de l'Assemblée, un appelé Duponceau, espèce de bonhomme rogue, à figure rouge et à cheveux blancs, qui, dans les grands jours, se prélassait au pied de la tribune avec un collet argenté, une chaîne sur l'estomac et une épée entre les jambes. Le commandant dit à Duponceau, « Faites votre devoir. » Ce que le commandant entendait, et ce que Duponceau comprenait par ce mot « devoir », c'était que l'huissier dénonça les législateurs. Quelque chose de pareil au valet qui trahit ses maîtres. Cela se fit ainsi. Ce Duponceau osa regarder en face les représentants les uns après les autres, et il les nommait au fur et à mesure, à un homme de police qui prenait note. Le sieur Duponceau fut fort maltraité en passant cette revue. « Monsieur Duponceau, lui dit monsieur de Vatiminil, je vous tenais pour un imbécile, mais je vous croyais un honnête homme. » Le mot le plus dur lui fut adressé par Anthony Touret. Il regarda le sieur Duponceau en face et lui dit « Vous mériteriez de vous appeler Dupin. » L'huissier, en effet, eût été digne d'être le président, et le président eût été digne d'être l'huissier. Le troupeau compté, le classement fait, il se trouva 13 boucs, 10 représentants de la gauche. Eugène Sue, Esquiros, Anthony Touret, Pascal Duprat, Chanet, Fayolle, Paulin Durieux, Benoît, Tamisier, Télard Latérisse, et 3 membres de la droite qui, depuis la veille, étaient devenus brusquement rouges aux yeux du coup d'État, Oudinot, Piscatori et Thuriot de la Rosière. On les enferma séparément et l'on mit en liberté, les uns après les autres, les 40 qui restaient. 2.9. Commencement d'éclair dans le peuple. La soirée fut menaçante. Des groupes s'étaient formés sur les boulevards. À la nuit, ils se grossirent et devinrent des attroupements, qui bientôt se mêlèrent et ne firent plus qu'une foule. Foule immense, à chaque instant accrue et troublée par les affluents des rues. Heurtée, ondoyante, orageuse, et d'où sortait un bourdonnement tragique. Cette rumeur se condensait dans un mot, dans un nom qui sortait à la fois de toutes les bouches et qui exprimait toute la situation. Soulouk. Sur cette longue ligne de la Madeleine à la Bastille, presque partout, excepté, était-ce exprès, aux portes Saint-Denis et Saint-Martin, la chaussée était occupée par la troupe, infanterie et cavalerie en bataille, batteries attelées. Sur les trottoirs, des 2 côtés de ce bloc immobile et sombre, hérissé de canons, de sabres et de baïonnettes, ruisselait un flot de peuple irrité. Partout l'indignation publique. C'était là l'aspect des boulevards. À la Bastille, calme plat. À la porte Saint-Martin, la foule pressée et inquiète parlait bas. Des cercles d'ouvriers causaient à demi-voix. La société du 10 décembre faisait là quelques efforts. Des hommes en blouse blanche, espèce d'uniforme que la police avait pris pour ces journées-là, disaient « Laissons faire, que les 25 francs s'arrangent. Ils nous ont abandonnés en juin 48. » Qu'ils se tirent d'affaire aujourd'hui tout seuls. Cela ne nous regarde pas. » D'autres blouses, des blouses bleues, leur répondaient. « Nous savons ce que nous avons à faire. Ça ne fait que commencer. Il faudra voir. » D'autres racontaient qu'on refaisait des barricades rue Homère, qu'on y avait déjà tué beaucoup de monde, qu'on tirait sans sommation, que les soldats étaient pris de vin, qu'il y avait sur plusieurs points du quartier des ambulances déjà encombrées de blessés et de morts. Tout cela dit gravement, sans éclat de voix et sans geste, du ton d'une confidence. De temps en temps, la foule faisait silence et prêtait l'oreille, et l'on entendait des fusillades lointaines. Les groupes disaient « Voilà qu'on commence à déchirer de la toile !» Nous étions en permanence chez Marie, rue Croix des Petits Champs. Les adhésions nous arrivaient de toutes parts. Plusieurs de nos collègues, qui n'avaient pu nous retrouver la veille, était venu nous rejoindre, entre autres Emmanuel Arago, fils vaillant d'un père illustre, Farconnet et Roussel, de Lyon, et quelques notabilités parisiennes au nombre desquels le jeune et déjà célèbre défenseur de « l'avènement du peuple », M. Desmarets. Des hommes éloquents, Jules Favre et Alexandre Ray, assis à une grande table près de la fenêtre du cabinet, rédigeaient une proclamation à la garde nationale. Dans le salon, Saint, assis dans un fauteuil, les pieds sur les chenets et séchant à grand feu ses bottes mouillées, disait avec ce tranquille et courageux sourire qu'il avait à la tribune « Cela va mal pour nous, mais bien pour la République. La loi martiale est proclamée. On l'exécutera avec férocité, surtout contre nous. Nous sommes guettés, suivis, traqués, et il est peu probable que nous échappions. Aujourd'hui, demain, dans 10 minutes peut-être, il y aura un petit écrasillat de représentants. Nous serons pris, ici ou ailleurs, fusillés sur place ou tués à coups de baïonnette. On promènera nos cadavres, et il faut espérer que cela fera enfin lever le peuple et choir le Bonaparte. Nous sommes morts, mais Bonaparte est perdu. » À 8 heures, comme Émile de Girardin l'avait promis, nous reçûmes de l'imprimerie de la presse 500 exemplaires du décret de déchéance et de mise hors la loi visant l'arrêt de la haute cour et revêtu de toutes nos signatures. C'était un placard 2 fois grand comme la main et imprimé sur du papier à épreuve. Ce fut Noël Parfait qui apporta les 500 exemplaires, tout humides encore, entre son gilet et sa chemise. 30 représentants se les partagèrent, et nous les envoyâmes sur les boulevards distribuer le décret au peuple. L'effet de ce décret, tombant au milieu de cette foule, fut extraordinaire. Quelques cafés étaient restés ouverts. On s'arracha les placards, on se pressa aux devantures éclairées, on s'entassa au pied des réverbères. Quelques-uns montaient sur des bornes ou sur des tables, et lisaient à haute voix le décret. « C'est cela, bravo !» disait le peuple. « les signatures » criait-on. On lisait les signatures. À chaque nom populaire, la foule battait des mains. Charamol, gai et indigné, parcourait les groupes, distribuant les exemplaires du décret. Sa grande taille, sa parole haute et hardie, le paquet de placards qu'il élevait et agitait au-dessus de sa tête, faisait tendre vers lui toutes les mains. « Criez à bas Soulouk, et vous en aurez » disait-il. Tout cela en présence des soldats. Un sergent de la ligne, apercevant Charamol, tendit la main lui aussi, pour avoir une de ces feuilles que Charamol distribuait. « Sergent, lui dit Charamol, criez à bas Soulouk. » Le sergent hésita un moment, puis répondit « Non !»« Eh bien, reprit Charamol, criez « Vive Soulouk !» Cette fois, le sergent n'hésita pas. Il éleva son sabre, et au milieu des éclats de rire et des applaudissements, il cria résolument « Vive Soulouk !» La lecture du décret ajouta une ardeur sombre à l'indignation. On se mit à déchirer de toutes parts les affiches du coup d'État. De la porte du café des variétés, un jeune homme cria à des officiers « Vous êtes ivres !» Des ouvriers sur le boulevard Bonne Nouvelle montraient le poing aux soldats et disaient « Tirez donc, lâches, sur des hommes sans armes. Si nous avions des fusils, vous lèveriez la crosse en l'air. » On commença à faire des charges de cavalerie devant le café Cardinal. Comme il n'y avait pas de troupes boulevard Saint-Martin et boulevard du Temple, la foule était compacte là plus qu'ailleurs. Toutes les boutiques y étaient fermées. Les réverbères jetaient seuls quelques lueurs. Aux vitres des fenêtres non éclairées, on entrevoyait vaguement des têtes qui regardaient. L'obscurité produit le silence. Cette multitude, comme nous l'avons déjà indiqué, se taisait. On n'entendait qu'un chuchotement confus. Tout à coup, une clarté, un bruit, un tumulte éclate au débouché de la rue Saint-Martin. Tous les yeux se tournent de ce côté. Une houle profonde remue la foule. On se précipite et on se presse aux rampes des hauts trottoirs qui bordent le ravin, devant les théâtres de la Porte Saint-Martin et de l'Ambigu. On voit une masse qui se meut et une lueur qui approche. Des voix chantent. on reconnaît ce refrain redoutable « Aux armes, citoyens, formez vos bataillons !» Ce sont des torches allumées qui arrivent. C'est la Marseillaise, cette autre torche de la Révolution et de la guerre qui flamboie. La foule se rangeait au passage de l'attroupement qui portait les torches et qui chantait. L'attroupement atteignit le ravin Saint-Martin et s'y engagea. On distingua alors ce que c'était que cette marche lugubre. L'attroupement était composé de deux groupes distincts. Le premier portait sur les épaules une planche, où l'on voyait étendu un vieillard à barbe blanche, roide, la bouche béante, les yeux fixes, ayant un trou au front. L'oscillation de la marche faisait remuer le cadavre, et la tête morte s'abaissait et se relevait d'une façon menaçante et pathétique. Un des hommes qui le portait, pâle, blessé à la poitrine, posait la main sur sa blessure, s'appuyait aux pieds du vieillard, et par moments paraissait lui-même prêt à tomber. L'autre groupe portait une autre civière, sur laquelle un jeune homme était couché, le visage blanc et les yeux fermés. Sa chemise souillée, ouverte sur sa poitrine, laissait voir ses plaies. Tout en portant les deux civières, les groupes chantaient. Ils chantaient la Marseillaise, et à chaque refrain, ils s'arrêtaient et élevaient leurs torches en criant « Aux armes !» Quelques jeunes hommes agitaient des sabres nus. Les torches jetaient une lueur sanglante au front blême des cadavres et aux faces livides de la foule. Un frisson courut dans le peuple. Il semblait qu'on revit la vision formidable de février. Ce cortège sinistre venait de la rue Homer. Vers 8 heures, une trentaine d'ouvriers qui s'étaient recrutés aux environs des Halles, les mêmes qui le lendemain construisirent la barricade de la rue Guérin-Boisseau, étaient arrivés rue Homer par la rue du Petit-Lion, la rue Neuve-Bourg-l'Abbé et le carré Saint-Martin. Ils venaient combattre, mais l'action était finie sur ce point. L'infanterie s'était retirée après avoir défait les barricades. 2 cadavres, un vieillard de 70 ans et un jeune homme de 25 ans, gisaient au coin de la rue, sur le pavé, face découverte, le corps dans une flaque de sang, la tête sur le trottoir où ils étaient tombés. Tous deux étaient vêtus de paletots et semblaient appartenir à la classe bourgeoise. Le vieux avait un chapeau à côté de lui. C'était une figure vénérable, barbe blanche, cheveux blancs, l'air calme. Une balle lui avait traversé le crâne. Le jeune avait eu la poitrine percée de plusieurs chevrotines. L'un était le père, l'autre était le fils. Le fils, ayant vu tomber son père, avait dit « Je veux mourir ». Tous deux étaient couchés, l'un près de l'autre. Il y avait devant la grille du Conservatoire des Arts et Métiers une maison en construction. On alla y chercher 2 planches. On étendit les cadavres sur ces planches. La foule les souleva sur ses épaules. On apporta des torches et l'on se mit en marche. Rue Saint-Denis, un homme en blouse blanche leur barra le passage. « Où allez-vous » leur dit-il. « Vous allez attirer des malheurs. Vous faites les affaires des 25 francs. »« À bas la police ! À bas la blouse blanche !» cria la foule. L'homme s'esquiva. L'attroupement se grossissait chemin faisant. La foule s'ouvrait et répétait en chœur la Marseillaise. Mais, à part quelques sabres, personne n'était armé. Sur le boulevard, l'émotion fut profonde. Les femmes joignaient les mains de pitié. On entendait des ouvriers s'écrier et dire que nous n'avons pas d'armes. Le cortège, après avoir quelque temps suivi les boulevards, rentra dans les rues, suivi de toute une multitude attendrie et indignée. Il gagna ainsi la rue des Gravilliers. Là, une escouade de 20 sergents de ville, sortant brusquement d'une rue étroite, se rua l'épée haute sur les hommes qui portaient les civières et jeta les cadavres dans la boue. Un bataillon de chasseurs survint au pas de course et mit fin à la lutte à coups de baïonnette. 102 citoyens prisonniers furent conduits à la préfecture. Les deux cadavres reçurent plusieurs coups d'épée dans la mêlée et furent tués une seconde fois. Le brigadier Révial, qui commandait l'escouade de Sergenteville, a eu la croix pour ce fait d'armes. Chez Marie, nous étions au moment d'être cernés. Nous nous décidâmes à quitter la rue Croix des Petits Champs. À l'Élysée, le tremblement commençait. L'ex-commandant Fleury, un des aides-de-camp de la présidence, fut appelé dans le cabinet où M. Bonaparte s'était tenu toute la journée. M. Bonaparte s'entretint quelques instants seul avec M. Fleury. Puis, l'aide-de-camp sortit du cabinet, monta à cheval et partit au galop dans la direction de Mazas. Ensuite, les hommes du coup d'État, réunis dans le cabinet de M. Bonaparte, tinrent conseil. Leurs affaires allaient visiblement mal. Il était probable que la bataille finirait par prendre des proportions redoutables. Jusque-là, on l'avait désirée. Maintenant, on n'était pas bien sûr de ne pas la craindre. On y poussait, on s'en défiait. Il y avait des symptômes alarmants dans la fermeté de la résistance et d'autres non moins graves dans la lâcheté des adhérents. Pas un des nouveaux ministres nommés le matin n'avait pris possession de son ministère. Timidité significative de la part de gens si prompts d'ordinaire à se ruer sur les choses. M. Rouher, particulièrement, avait plongé on ne savait où. Signe d'orage. Louis Bonaparte mis à part, le coup d'État continuait à peser uniquement sur trois noms, Morny, Saint-Arnaud et Maupas. Saint-Arnaud répondait de Magnan. Morny riait et disait à demi-voix « Mais Magnan, répond-il de Saint-Arnaud ?» Ces hommes prirent des mesures. Ils firent venir de nouveaux régiments. L'ordre aux garnisons de marcher sur Paris fut envoyé d'une part jusqu'à Cherbourg et de l'autre jusqu'à Maubeuge. Ces coupables, profondément inquiets au fond, cherchaient à se tromper les uns les... Entre parenthèses, original, des. On corrige, comme dès l'édition Ney Varietour. Cherchaient à se tromper les uns les autres. Ils faisaient bonne contenance. Tous parlaient de victoires certaines. Chacun en arrière arrangeait sa fuite en secret. Original, fuite en secret. On corrige comme dès l'édition Ney Varietour. Et sans rien dire, afin de ne pas donner l'éveil aux autres compromis. Et en cas d'insuccès, de laisser au peuple quelques hommes à dévorer. Pour cette petite école des singes de Machiavel, la condition d'une bonne évasion, c'est d'abandonner ses amis. En s'enfuyant, on jette ses complices derrière soi.